RMC, After Italy,
Jérôme Sillon.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Italy. Vous nous écoutez en podcast sur RMC, vous nous regardez sur la chaîne YouTube de l'After, sur After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à mettre une note et à écrire un commentaire. On part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec Daniele Manoussia, notre drôle de dame. Salut Daniele.
Salut Jérôme, salut Loïc, salut tout le monde.
Et avec Loïc Moreau, salut Lolo.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Tout va bien les garçons?
Au top.
Prêt à parler de la Viola?
Évidemment.
La Viola qui a raté complètement son début de saison, Lolo qui a perdu ses trois premiers matchs.
Ah ouais, on s'y attendait pas, tu le disais, 130 millions d'euros investis cet été, ouais, surtout des noms sympas, Ulaï, Atta, on aura le détail tout à l'heure, mais on ne pensait pas que la Fiorentina raterait à ce point son début de saison. Et en plus, avec trois défaites en trois matchs et des grosses défaites, une claque prise à la Roma. Alors, on peut se dire la Roma qui fait partie des favoris pour le Scudetto, c'était un faux pas. Mais le pire, c'était lors de la J2, cette défaite 3-0 à domicile contre le promu Frosinone, le jour de la célébration du centenaire du club devant un parterre de stars d'ancienne gloire de la Fiorentina. Et ça ne s'est pas arrangé pour l'autre match à domicile, le troisième match de la saison, qui s'est terminé donc sur une défaite 2-1. Face au Torino. Donc la Fiorentina est pour l'instant lanterne rouge de Serie A avec, tu le disais, un but marqué, 9 buts encaissés, très loin des ambitions affichées en début de saison.
Bon, ils avaient mal choisi leur moment, Daniele, hein, cette fameuse défaite dont parlait Lolo contre Frosinone avec sous les yeux de Rui Costa, de Gabriel Batistuta et d'un parterre d'anciennes légendes du club. C'était franchement pas le bon moment pour se voir infliger, se camoufler à la maison. Hein.
Oui. En même temps, je me sens de dire que c'était le meilleur match des trois, de la Fiorentina, de Grosso, parce qu'au bout de 40 minutes, il ne méritait pas de perdre 2-0. C'est un de ces matchs où la balle ne rentre pas d'un côté. Il y a même, si vous regardez même justement juste les highlights, il y a une action où il tape deux fois les poteaux sur la même action. Une fois à Mastantuono, l'autre fois à Valdepeñas. Donc, quand c'est comme ça, tu te dis, bon, c'est la malchance. Après, voilà, il y avait de mauvais choix derrière qui à un certain moment, la Fiorentina, elle a payé, Grosso, elle a payé. Mais à ce moment-là, moi encore, j'aurais jamais imaginé qu'une semaine d'après, avec une autre défaite, c'est là, franchement, violente, brutale. Une prestation nullissime contre Turin, toujours à domicile. Grosso se faisait limoger. Pour moi, les matchs contre la Frosinone, les centenaires, c'était ce qu'en italien on appelle un psychodrame, une anecdote qu'après on va se rappeler. C'était malchanceux, mais pas quelque chose sur la base duquel limoger Grosso déjà.
Est-ce qu'il fallait quand même tout jeter là dans ces trois matchs? Daniele parlait du deuxième qui n'était pas si mauvais que ça finalement. Est-ce que les chiffres donnent raison au fait de vouloir dire que c'est un début de saison catastrophique?
Ils donnent raison à Daniele aussi parce que comme il le disait, il y a eu aussi beaucoup de malchance sur ces trois défaites. C'est pas trois défaites. Alors certes, effectivement, les scores sont lourds, mais il n'y a pas le néant footballistique des deux côtés, hein, que ce soit en attaque comme en défense. Effectivement, la Fiorentina n'a marqué qu'un seul but donc lors de ces trois matchs, mais ils ont cumulé 4,15 XG, donc les expected goals. On rappelle, les expected goals, c'est la qualité des occasions procurées. Donc la Fiorentina aurait pu marquer 4 buts lors de ces 3 matchs et n'en a marqué qu'un. 2% de conversion, c'est là où le bât blesse en fait. C'est effectivement cette incapacité à la mettre au fond qui a plombé la Fiorentina offensivement. Et si on regarde du côté de la défense, là aussi c'est pareil, 9 buts encaissés, c'est énorme sur les 3 premiers matchs pour 4,5 XG subis. Donc pareil, la qualité des occasions adverses, donc 4 c'est quand même beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des choses à... Il y a un problème en défense, hein, comme dirait l'autre. En revanche, effectivement, ils ont encaissé deux fois plus de buts que ce qu'ils auraient dû. Donc voilà, si on essaye de prendre un peu de recul, de garder la tête froide, toujours grâce aux statistiques, on se dit qu'effectivement, ce début de saison, il n'est pas si pourri que ça, en fait. Il fallait lui laisser un peu de temps à Fabio Grosso. Mais voilà, on est dans un contexte où, d'ailleurs, il en aurait eu du temps, puisqu'il était censé... être, on va dire, conservé au moins jusqu'à la trêve internationale, donc avec trois matchs pour redresser la barre. Mais ça n'a pas tourné dans ce sens-là. Et au final, effectivement, on se dit que la décision de le limoger, si on reste vraiment sur le sportif, elle a été peut-être trop hâtive.
Qu'est-ce qui a précipité du coup le limogeage de Fabio Grosso, Daniele ? Est-ce que du coup, on comprend bien que les résultats ne sont pas la principale, ou en tout cas pas la seule explication ?
Probablement l'explication la plus réelle, c'est les rapports entre Grosso et Paratici, c'est-à-dire le directeur sportif qui est là depuis à peu près 6 mois, parce que le dernier mois de janvier, il est passé de Tottenham à la Fiorentina. Il a fait son premier mercato avec, comme on l'a dit, beaucoup d'investissements. Si on compte aussi les prêts avec possibilité d'achat, en imaginant que la Fiorentina elle arrive à racheter vraiment tout le monde, ils vont dépenser 200 millions sous ce mercato. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent. Mais Grosso, il paraît qu'il avait un peu abîmé les rapports avec Paratici. Il était probablement arrivé, lui, à la fin, sur un point de vue émotif. On l'a vu à la fin du match contre le Touron, aller sous le supporter de la Fiorentina qui lui chantait que son banc allait sauter. Il lui chantait ça parce que voilà, c'était un peu de l'ironie, un peu de la méchanceté. Et lui, il avait cette grimace, cette espèce de sourire que certains ont interprété même comme de l'arrogance. Moi, je l'interprète comme du névrosisme, comme quelqu'un au bord de...
La nervosité, Daniele.
Nervosité, oui, mais un breakdown, quoi. Il était au bord de craquer. En fait, il a craqué parce qu'il paraît qu'après, il a dit à Paratici au téléphone, écoute, cette équipe, je ne peux pas la coacher, elle est incoachable, elle est ingérable. Si toi-même, si tu as de l'affection pour moi, limoge-moi. Donc, si c'est ça la raison, c'est bizarre aussi, mais on comprend un peu mieux. Après, il y a beaucoup, énormément, je pense, on va en parler, des choix bizarres que je n'arrive pas à comprendre sur les formations, sur le jeu aussi de la Fiorentina qui a pas évolué, même il a dégradé. Mais rien n'explique un limogeage au bout de 3 matchs. Il y a un entraîneur, si vous voulez, qui a perdu 3 matchs de suite, et on n'en parle même pas de limoger, même il a perdu 3 matchs sur 4 joués, et c'est Allegri avec Naples, mais on n'en parle pas, donc c'est aussi une question d'aplomb.
Bon, le crédit n'est pas le même. Le crédit n'est pas le même, évidemment. Avant de parler des transferts, avant de parler du sportif, je voulais qu'on s'attarde juste sur la question Fabio Grosso. Parce que c'était une opportunité pour lui, la Fiorentina, de montrer toute l'étendue de ses qualités. Il sortait quand même de 2 très belles saisons avec Sassuolo. Il avait échoué également à Lyon. Il avait bien réussi à Frosinone. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? La véritable valeur de Fabio Grosso, Lolo, pour commencer. Est-ce que, finalement, c'est un entraîneur de petit club ?
Alors, c'est vrai que ce qui est vraiment étonnant déjà de base, c'est le fait qu'il se soit fâché avec Fabio Paratici. Fabio Paratici, qui est quelqu'un qui connaît très bien, puisque c'est lui qui l'a lancé avec les jeunes à la Juve à l'époque, l'un de ses premiers postes en tant qu'entraîneur. C'est lui qui l'a fait venir à la Fiorentina. Et tu le disais, Jay, en fait, si l'on fait venir, c'est pas innocent. C'est parce qu'il sortait effectivement 2 bonnes saisons avec Sassuolo, qu'il a monté de Serie B à Serie A et qu'il a maintenu avec la manière. Il y avait un projet, exactement. Et en fait, c'est ça. C'est là où ça a chopé, c'est-à-dire que lui disait « mais moi je veux des ailiers » et on lui a acheté beaucoup de joueurs de qualité, mais pas d'ailiers, pas ceux qu'il voulait. Et il disait « moi je veux garder mes cadres, Keane et Mandragora notamment », et on lui a dit « non, on va les vendre ». Donc en fait, il y a eu vraiment un clash sur la façon de voir les choses entre Grosso et Paratici qui a donc déclenché ce départ précipité. Et c'est difficile en fait de se dire quelle est réellement la valeur de Fabio Grosso sur son passage à la Fiorentina, puisque en 3 matchs, tu ne peux pas juger. En fait, il y a eu mal donne dès le départ entre les deux. Le recrutement n'a pas été fait par rapport à ses desiderata, même s'il a été assez costaud et plutôt qualitatif. Donc en fait, c'est dur de gérer, parce que j'ai envie quand même de retenir ces 2 belles saisons à Sassuolo. Effectivement, tu le disais, il avait fait du bon travail aussi à Frosinone. Donc je ne sais pas si vraiment, et je ne sais pas si on peut considérer la Fiorentina comme vraiment un grand club. Tu vois, c'est un club qui a des ambitions, mais on le verra par la suite dans ce podcast. Et quand même, j'irai avec les pieds, ce club. Donc, pour l'instant, j'avoue que j'ai pas trop... Je veux pas accabler Fabio Grosso, mais force est de constater que là, il a peut-être raté l'occasion de step up clairement dans sa carrière d'entraîneur.
Ouais, Daniele, qu'est-ce que tu en dis, toi, de la cote aujourd'hui de Fabio Grosso? Parce que c'est son 2e échec dans un club de dimension européenne après l'Olympique Lyonnais.
Oui, bon, l'Olympique Lyonnais, c'était 7 matchs en total. C'était très bizarre. On se souvient l'histoire de Pullman cassé à coups de pierre, la pierre qui avait même tapé Grosso sur la tête. Donc, c'était une situation assez bizarre. Et il y était allé juste avant avoir promu Frosinone. Après, il est rentré à Sassuolo. Il a fait bien tout de suite parce qu'il a promu tout de suite Sassuolo. Il a fait une bonne première saison à Sassuolo l'année dernière. Il était mal parti là aussi avec une équipe qu'on se disait, bon, ils n'ont pas le joueur pour aller sauver. Et il les a sauvés avec un très bon jeu. Et il avait beaucoup de hype. Il faut, par exemple, imaginer que dans les histoires autour de Maldini, quand il était à la direction de l'équipe nationale italienne, il y a que après Guardiola, il a essayé de prendre Grosso aussi. Au moins, c'était un des noms qu'il avait fait Maldini pour les bandes de l'Italie. Donc, imaginez-vous le hype qu'il y avait Grosso, et il était déjà sous contrat avec la Fiorentina. Par contre, oui, quand il y a un hype, mais il n'y a pas une vraie confiance, c'est ça qui va s'avérer après. Il aurait fallu plutôt essayer peut-être de se coordonner mieux sur les achats des joueurs, parce qu'il y a eu une première phase de mercato où la Fiorentina, par exemple, elle n'avait pas d'ailier. Et tout le monde disait, mais Grosso, il jouait avec des ailiers. Sassuolo, il jouait avec des milieux relayeurs qui couraient beaucoup avec la balle, mais des ailiers qui cassaient, qui rentraient dans les terrains. Et après les premières 2 matchs, hein, donc après la défaite avec Frosinone, ils ont acheté 4 joueurs, donc 3 ailiers, dont, par exemple, Pedro Gonçalves, pas n'importe qui. Et donc, ils ont acheté des ailiers pour Grosso, on s'est dit, et après, ils l'ont limogé. Donc, il y a franchement une situation chaotique qui va bien au-delà de Grosso. Là, en ce moment, sa cote, elle s'est complètement écroulée. Je pense qu'il va lui falloir attendre, et je ne sais pas repartir d'où. C'est un peu la même histoire, mais avec des proportions un peu différentes, de Thiago Motta, après, on va dire, la défaite avec la Juventus. Des entraîneurs qui sont beaucoup aimés, qui ont montré d'avoir un jeu contemporain, avec des idées et tout, mais qu'ils ont failli, ils ont raté leur premier essai dans un club avec des ambitions.
Ouais, ce ne sera pas simple, hein, sans doute, pour Fabio Grosso de rebondir. Il va lui falloir un petit peu de temps et trouver peut-être le projet adéquat avec la direction sportive adéquate. Dans un instant, on va parler du remplaçant sur le banc de touche de la Fiorentina, de l'effectif à disposition du nouvel entraîneur Paolo Vanoli. Et puis, on va s'interroger aussi, effectivement, sur le cap que prend ce club-là, sur sa direction, sa gouvernance, qui pose question quand on voit notamment le président et sa façon de parler devant les tifosi de la Fiorentina. À tout de suite. De retour dans l'After Italy avec Daniele Manoussi, avec Loïc Moreau, on parle de la Fiorentina qui repique sa crise, qui a viré Fabio Grosso et qui a donc pour se relancer, rappelé sur le banc de touche Paolo Vanoli. Lolo, un Vanoli qui avait déjà évité la relégation la saison passée à la Fiorentina.
Ah, ça, c'est le classique italien, hein. On te vire et on te récupère quelques mois après. Alors effectivement, là, il n'était plus sous contrat, Paolo Vanoli, pour redonner un peu de contexte. En fait, lui, il arrive la saison dernière en cours de saison et il remplace Stefano Pioli. À cause déjà de la première crise dont tu parles, parce que tu dis ils repiquent leur crise, mais effectivement, oui. L'année dernière, on se souvient qu'ils ont lutté jusqu'à la fin, hein, pour le maintien, et c'est justement Paolo Vanoli qui leur a permis de rester en Serie A à 2 journées de la fin, donc c'était chaud, une 15e place donc au classement pour un bilan toute compétition confondue de 38 matchs, 14 victoires, 11 nuls, 13 défaites, donc c'est très mid, hein, comme bilan. Mais Paolo Vanoli, voilà, malgré le fait effectivement qu'il n'ait pas été reconduit par sa direction en fin de saison dernière, il avait gardé quand même une cote d'amour auprès des supporters, auprès de certains joueurs aussi de l'effectif, qui sont bien contents de le voir revenir, soit parce que ils l'appréciaient tout simplement, ils appréciaient jouer sous ses ordres, soit parce qu'ils avaient moins de temps de jeu avec Fabio Grosso qu'avec Paolo Vanoli. Mais voilà, c'est le retour de Vanoli à la tête de la Fiorentina. Il ne devrait pas y avoir de révolution, peut-être un petit ajustement tactique. On parle effectivement de passer en 4-2-3-1 plutôt que le 4-3-3 de Fabio Grosso, mais en tout cas il arrive en terrain conquis et il peut pas faire pire que Fabio Grosso, hein, 0 point. Bon, là forcément, déjà s'il fait match nul en J4, on dira c'était une bonne décision de la part du board.
Par contre, Daniele, faut pas s'attendre à une Fiorentina aussi protagoniste qu'on pouvait l'espérer ou le croire avec Fabio Grosso.
Ça on sait pas. Moi je pense toujours que l'équipe elle a des qualités. Moi, aujourd'hui, j'ai le t-shirt de l'Argentina parce que pour solidarité à Mastantuono, j'y crois toujours. Je pense toujours qu'il peut devenir qu'il est un des meilleurs joueurs du championnat. Il a même bien joué, franchement, les premiers matchs de son côté, mais un peu dans les déserts, un peu tout seul. Lui, Vanoli, il a aussi un caractère très différent que Grosso. C'est quelqu'un de très excentrique, de très passionné, un peu fou. C'est un des entraîneurs un peu, sous les lignes, quoi. Lorsque Grosso, il était plutôt dans les dialogues, plutôt. Donc voilà, je pense que Vanoli, il va tout de suite donner un choc d'énergie à cette équipe. Il va peut-être avoir le temps de trouver un 11, ou quand même une idée des 11, une idée de tactique cohérente, va la mettre en place, qui va peut-être aider plus de monde possible. L'année dernière, il jouait avec les 3 en 5-2. Pour se ressouiller, pour résister à la puissance qui les tirait vers le bas. Et là, je ne sais pas, un peu, moi, je pense qu'un peu le message qu'il donne aussi, c'est on a peur de faire comme l'année dernière. On ne veut pas se retrouver à lutter pour la Série B. Donc, ce n'est pas un message très ambitieux. Mais peut-être que d'ici quelques mois, on va voir la Fiorentina au bord de la Conference League, l'Europa League, pourquoi pas. Moi, je crois dans l'équipe, franchement. Et Vanoli, c'est un bon entraîneur. Après, personnellement, je préférais Grosso parce que les Sassuolo, l'année dernière, jouaient bien. Et la Fiorentina n'a jamais joué si bien. Mais on va voir, pourquoi pas. Il faut donner une occasion aussi à Vanoli, qui d'ailleurs, il a été limogé l'année dernière sans aucune raison particulière.
Ouais, on ne lui a pas fait confiance pour continuer l'aventure. En tout cas, il va pouvoir s'appuyer sur un effectif de qualité. On en a parlé, 130 millions d'euros dépensés sur le marché des transferts, une douzaine de joueurs qui ont été recrutés et un effectif qui a fière allure quand même quand on le regarde, Lolo. Alors, on en a parlé la semaine dernière dans le podcast qu'on avait consacré à nos coups de cœur et à nos coups de griffe sur le mercato. Moi, j'avais mis en avant notamment le recrutement de Cristinao, Oulahi, qu'on voit au milieu de terrain. Toi, Daniele, tu avais mis en avant Mastantuono. Mais au-delà de ça, il y a Pedro Gonçalves, donc que tu qualifies d'ailier, Daniele, mais en même temps, moi je pense que si tu parles de 4-2-3-1, Lolo, je vois bien Poté, c'est son surnom, jouer par exemple en soutien de l'attaquant de pointe. Hein.
Oui.
Après, sur l'effectif, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple sur la qualité des joueurs à sa disposition là? Quels sont les noms qui vous hype le plus? Il y a Arthur Atta, évidemment, qu'on attend au tournant.
Il y a attaque, pour le moment il n'est pas au top, c'est sûrement une des étoiles, parce que quand il était à l'Udinese, on parlait de Manchester City, de Barcelone, carrément pour lui. Il y a Angé qui a fait une entrée en jeu lors de la première, du premier match du championnat entre Turin et Milan, où on aurait dit le meilleur Rafa Leao. Mastantuono, bien sûr, Pellegrino qui a marqué un but, bon, avec l'aide du gardien, mais lui aussi c'est un attaquant que beaucoup d'équipes plus côté de la Fiorentina auraient peut-être voulu. Après, si on regarde cette équipe-là, on dirait un peu les mêmes du cheval, bien dessiné à l'avant et mal dessiné à l'arrière, parce qu'il y a la défense, et là où en plus on a vu les problèmes de la Fiorentina dans ses premières journées. La défense, il y a beaucoup, beaucoup de doutes. Là aussi, Grosso, il avait beaucoup de changements. Dragusin, c'était le seul titulaire. Et il a très mal joué. Sur les 9 buts qu'ils ont encaissés, il y en a au moins 3 ou 4 où Dragusin aurait pu faire quelque chose de plus. À côté de lui, il a changé Ranieri, Pongracic. C'était la catastrophe. Vieri, moi, j'ai l'impression que c'est le meilleur, mais il est très jeune. Sur les côtés aussi, moi, je pense que les joueurs, ils sont bons, mais c'est un peu léger parce que Dodo et Jiménez, c'est pas très défensif. De l'autre côté, João Pedro, il a coûté le but contre la Roma. Valdepeñas, il est très jeune. Donc, il y a beaucoup. Et De Gea aussi. De Gea, il est déjà la saison dernière, il y avait des doutes. Et là, il a mal démarré cette nouvelle saison. Donc, la Fiorentina, c'est surtout sur la partie défensive où il y a de problèmes. Moi, j'ai aucun doute que devant, elle va marcher. Il y a trop de bons joueurs. Il faut juste trouver la manière de les mettre ensemble. Mais il y a trop de bons joueurs parce que ça ne marche pas.
Et il y a peut-être des joueurs aussi qui peuvent profiter de l'arrivée d'un nouvel entraîneur.
Ce qui est marrant, en fait, c'est que il revient dans un club qu'il a quitté il y a quelques mois, mais il va retrouver sur tout l'effectif qu'on a vu, et ça en fait, hein, ils sont 24, je crois, que 7 noms qu'il a déjà coachés, et la plupart en défense. Donc, il y a peut-être moyen qu'il règle un petit peu, qu'il fasse quelques réglages en défense et que ça fonctionne mieux, parce que les Pongracic, parce que les Ranieri, parce que les Dragusin, il les connaît bien. Dodo aussi, c'est Dodo hein, qui a mis un petit message sur Insta, un petit like, sur le fait que Vanoli revienne. Donc ça va sans doute relancer certains joueurs. On pense aussi à Nicolo Fagioli, l'ancien de la Juve, qui était un peu moins dans les plans de Fabio Grosso, semble-t-il, et qui là devrait peut-être gagner un peu plus de temps de jeu. Donc après, voilà, reste à voir comment il va ajuster. La qualité, elle est dans cet effectif-là. Ils ont largement de quoi se maintenir. Maintenant, il va falloir qu'ils trouvent le bon système et qu'ils trouvent aussi les bons joueurs et la façon de les faire jouer du mieux possible.
Alors au final, on se demande aussi, d'un point de vue, si on prend un peu plus de recul, on se demande quelle direction prend ce club centenaire. Rocco Commisso, donc, qui était le président de la Viola depuis 2019, est décédé au mois de janvier dernier. Son fils, Joseph Giuseppe, ça dépend si on veut prendre l'accent anglais ou italien, a pris sa place. Mais le problème, justement, c'est qu'il ne parle pas vraiment la langue de son pays d'origine et que son crédit auprès des tifosi est plus que limité. On voulait vous montrer cette séquence qui date des festivités, donc fin août, du 100e anniversaire du club, où on le voit donc lire quelques notes en italien. Et c'est vrai que bon, ça fait un peu sourire.
Amo la Fiorentina!
Voilà, avec quelques insultes en plus derrière. Alors, il y a des séquences plus longues qui tournent sur les réseaux sociaux où son discours a été, on le voit dans le stade aussi, où il lit des notes.
Ah, c'est Trump.
Mais là, même pour dire viva la Fiorentina, il a besoin de son téléphone portable. En fait, c'est assez pathétique. Et limite, quand on le voit, on se dit, mais c'est qui en fait? C'est un artiste, c'est un acteur, c'est un humoriste, mais c'est surtout pas un président en fait.
Bah, je sais pas ce qu'en pense Daniele du point de vue italien, mais nous, à part le fait que ce soit le sosie de Giorgio Chiellini et qu'effectivement, il soit légèrement engoncé dans son costume trois pièces, effectivement. Ça fait beaucoup rire. Ça fait beaucoup rire parce que effectivement, il parle pas italien. Il lit donc son Google Translate sur son téléphone, et parce qu'effectivement, il se met en scène d'un point de vue qui est clownesque, hein, réellement. Donc, je sais pas ce qu'on en dit en Italie, Daniele, mais en France, en tout cas, ça fait beaucoup rire. Ça nous fait beaucoup rire.
Alors, ça fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais c'est un homme de pouvoir et les journaux respectent les hommes de pouvoir, donc ils vont pas écrire quelque chose de méchant ou de critique envers lui. Moi, personnellement, je le trouve inquiétant. Je trouve sa présence, ça commence à être un peu lourde, plutôt que bizarre. Il faut se rappeler que la Fiorentina, elle a pas seulement perdu Rocco Commisso, qui a bâti les centres d'entraînement magnifiques et tout, mais 2024, il a perdu Joe Barone, qui était le directeur sportif. Donc, c'est passé de Rocco Commisso et Joe Barone à Paratici et le Barone Junior. Donc, c'est aussi une autre Fiorentina. Comme on a vu dans cette petite vidéo que vous avez montrée, les supporters, ils sont entre les deux, entre l'applaudissement, parce qu'effectivement, il a dépensé beaucoup d'argent, il a mis en place des moyens. Et les insultes pas méchants, mais les insultes qu'on fait un peu à l'idiot du village. Donc c'est un peu, franchement, c'est un peu entre les deux pour le moment. Florence aussi, c'est une ville comme ça, un peu comme Rome, où on n'arrive pas toujours à respecter les autres, où on n'a pas vraiment confiance dans les autres. Et ils ont passé de l'enthousiasme du mercato à ce moment où ils ont même, à Grosso, ils lui chantaient qu'il allait le limoger comme si c'était drôle, comme s'il allait gagner quelque chose dans ça. Et ça, moi, je pense que ça aide pas.
Mais c'est quoi l'ambition du coup de ce club, Daniele? C'est quoi l'ambition aujourd'hui de la Fiorentina? Parce que bon, on se rappelle de l'époque Vincenzo Italiano, où ça avait plutôt bien fonctionné, deux finales de Conference League, des bons classements à la fin de la saison en Serie A, même s'il n'y avait pas de Champions League, même s'il n'y a pas eu de titre ou de trophée remporté, mais en tout cas on sentait un club qui progressait à nouveau. Là, quand il est arrivé en fait, ce Giuseppe Commisso, il est venu avec quelles ambitions? C'est quoi son discours?
La Fiorentina, ça fait beaucoup d'années qu'elle tente de remonter. Avec Palladino, elle était arrivée. Après, il y a eu l'affaire pénalité. On n'a pas bien compris pourquoi Palladino il est parti. Et ils ont mal vécu la dernière saison. Mais les discours de la Fiorentina, il est effectivement ambitieux. Ça colle, ça, par contre, ça colle avec leurs supporters, qu'ils ont une idée de la Fiorentina plus grande de ce qu'elle est en réalité, un peu comme ça marche pour la Roma, pour la Lazio, et l'idée que la Fiorentina, elle peut être rivale, par exemple, de la Juventus. Il y a cette rivalité asymétrique avec la Juventus, que ça marche que dans le sens de la Fiorentina, parce que pour la Juventus, c'est une petite rivalité, c'est un insecte, c'est de la poussière dans les yeux, c'est pas plus que ça. Mais pour les supporters de la Fiorentina, c'est un derby, ils se sont au même niveau. Ben, c'est de revenir à ce niveau-là, qu'ils ont peut-être attend juste à l'époque de Batistuta, Rui Costa, ou même avant d'Antonioni, etc. Mais l'ambition, c'est, je pense, avec le mercato qu'ils ont fait, c'est au moins de venir casser les pieds aux premières 7 équipes. C'est-à-dire casser les pieds pour une place en Conference League, au moins d'arriver à cette barrage-là, à cette porte-là, toquer à cette porte-là, voilà, et s'éloigner le plus possible, bien sûr, de la Série B, que c'était la porte qu'il y avait derrière l'année passée.
Le calendrier pour la Fiorentina, c'est quoi, Daniele, les prochains matchs pour Vanoli, pour essayer de redresser la barre?
Alors, je ne sais pas, je vais vérifier.
Vas-y, ben, écoute, tu m'as pris, pas prends ton temps, désolé, je t'ai pris au dépourvu. Moi aussi, j'avoue, j'ai mal travaillé, je n'ai pas préparé ça. Donc, on va regarder ça.
Il y a la trêve qui va arriver très vite.
Là, ils vont jouer contre Venise.
Voilà, Venise,
non,
ok.
Mais là, ils vont jouer contre Venise. À Venise, Venise aussi, c'est une équipe qui a très bien joué avec Stropa, un autre entraîneur intéressant qui fait du bon jeu, mais ils ont fait très peu de points, je pense 0 ou 1. Donc, Venise aussi, il faut qu'ils gagnent au bout d'un moment. Après, ils ont Naples. Et après, ils auront la Coupe d'Italie contre Pise, le derby toscan au milieu de la semaine. Après, ils ont Naples à domicile. Okay. Et après, ils vont jouer à Gênes, une autre équipe qui est en difficulté. Et après, ils ont Com à la maison et Inter à Milan.
Ça c'est jusqu'à la fin du mois d'octobre. Après la trêve internationale, ça. Ce sera après la trêve internationale, ouais. Parce qu'on va avoir d'abord effectivement 2-3 semaines de coupure qui permettront sans doute à Paolo Vanoli de travailler justement son système de jeu, de choisir peut-être un petit peu mieux ses joueurs. Et c'est vrai que ce qui est bizarre aussi, c'est que Grosso, on ne lui a pas laissé le temps justement de cette trêve internationale pour essayer de refaire le point sur son effectif et de retravailler à l'entraînement. Merci beaucoup Daniele. Merci Lolo. La Fiorentina qui repique sa crise, on verra si ça se redresse dans les semaines à venir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
RMC After Italie.